enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Est-ce que vous êtes sûr de savoir bien raisonner ? Oui ? Bon, par exemple, voilà un raisonnement qui est classique et qui est faux, mais qui est classique pour introduire ça. Vous savez qu'on dit qu'un cheval bon marché est rare. Vous savez ça ? Tout ce qui est rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Ça va, vous m'avez suivi ? On est OK ? Bon, c'était simple, je recommence. Un cheval bon marché, c'est rare. Tout ce qui est rare est cher. Donc, un cheval bon marché est cher. Bon, ça a l'air de se tenir. Eh bien, évidemment, c'est absurde. Hein? Alors, tout ça pour dire que si on veut quand même quelque chose de pris, eh bien, il n'y a rien à faire. Il faut payer la facture. Hein, quand quelque chose est bon marché, en général, on en a pour son argent, c'est-à-dire pas grand-chose. Et il suffit pas, pour mettre sa confiance dans quelqu'un, de savoir que c'est pas un mauvais cheval. Alors, ce que je veux dire, c'est que la Bible nous montre que aussi, on paye la facture quand on achète quelque chose, et aussi, d'une manière un petit peu, en prenant l'expression dans son sens seulement populaire, on paye la facture de nos actes, c'est-à-dire la conséquence de ce qu'on fait. Et c'est pas négatif, c'est pas pessimiste de dire que nous devons prêter attention aux conséquences de ce que nous faisons. Et j'ai parfois un petit peu l'impression que on a une conception de l'Évangile, une conception de la grâce qui laisserait sous-entendre que de toute façon, puisque Dieu est bon, puisque Dieu pardonne, puisque Dieu n'est pas limité dans sa compassion, il connaît notre faiblesse, alors il nous pardonne et puis après il n'y a plus de conséquences, tout est passé, tout est fini. Et je crois que sans rien enlever à la proclamation de la grâce de Dieu, nous devons faire attention de ne pas avoir une compréhension qui soit un faux raisonnement, une compréhension qui nous amènerait, comme le sophisme que je citais tout à l'heure, une compréhension qui nous amènerait à transformer ce que dit la parole de Dieu. Ce que nous faisons a des conséquences, et le fait que Dieu nous pardonne ne supprime pas pour autant automatiquement les conséquences de ce que nous avons fait. J'aime bien, quand je parle de ça, reprendre l'exemple dans la vie de notre bon patriarche Jacob, hein, dans la Genèse. Vous avez tous lu un petit peu la Genèse. Pour ceux qui ont commencé à lire la Bible par le début, vous êtes peut-être arrivés jusque-là quand même. Donc, Jacob... Et donc, dans l'histoire de Jacob, on trouve ça, Jacob, Ésaü, Isaac, tout ça, toute la famille, on trouve une loi comme ça qui est très intéressante. Par exemple, je vous lis un texte à propos de Jacob et Ésaü, qui étaient les fils d'Isaac, d'accord ? Alors, c'est dans Genèse au chapitre 27, et pour vous rappeler un petit peu l'épisode, il y avait une rivalité entre Jacob et Ésaü, et Jacob s'était débrouillé pour déjà acheter, disons un petit peu frauduleusement quand même, le droit d'aînesse de son frère. Hein. Mais quand la maman Rebecca, la maman de ces deux loustiques là, a vu que son mari avancé en âge comme elle, elle l'a un petit peu aidé au montage d'une escroquerie. C'est-à-dire que Jacob, le papa, a dit, avant de mourir, je veux transmettre la filiation spirituelle que j'ai reçue depuis Abraham, je veux la transmettre à mon fils. Mais entre ces deux fils, il avait un préféré. Ah, ça, c'est pas bien. Pas bien. Il avait un préféré, et on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, il avait un préféré, et il a dit à Ésaü, c'était Ésaü, il lui a dit, écoute, aujourd'hui, je vais te transmettre le droit d'aînesse. C'était quelque chose de très important, très fort. Va seulement dans la campagne, tu me ramènes une bonne pièce de gibier, tu sais bien me préparer ça, et puis je vais bien me régaler, après je vais être en forme pour te bénir. Mais des oreilles écoutaient le long des murs, surtout quand les tentes, quand c'est des tentes, les murs ont plus d'oreilles encore. Alors, et quand Rebecca a entendu ça, alors elle a dit, mais il faut pas que le droit d'aînesse échappe à mon chouchou, parce qu'elle aussi, elle avait un chouchou. Et son chouchou, justement, c'était l'autre. C'était Jacob. Alors elle a dit à Jacob, elle lui a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas te déguiser, et c'est facile de se déguiser parce que ton frère est très poilu. Alors comme il est très poilu, tu vas te mettre sur le cou, sur les mains, des petites bandes de peau d'un tout jeune chevreau, et puis tu mettras les vêtements aussi de ton frère, on va les lui piquer dans sa garde-robe, et comme ça, et comme ton papa, dans son grand âge, comme ton papa maintenant n'y voit plus goutte, eh bien, tu iras et tu diras que tu es Ésaü, il te bénira, et comme ça, tu piques la bénédiction à ton frère. Bon, Jacob était moyennement chaud avec ce plan quand même, Il a dit, ouais, mais s'il me reconnaît, alors là, ça va être grave pour moi, Il dit, non, il arrivera rien, pas de problème, fais comme on a dit. Alors, il a préparé une viande, et il a dû faire une sauce bien forte pour faire croire que c'était du gibier, alors que c'était un chevreau de la maison, et il l'a fait manger à son papa, et au chapitre 27, verset 18, il vient vers son père, Et donc, il est arrivé, évidemment, plus tôt que son père l'attendait. Alors, il vient vers son père et lui dit, « Papa !» Isaac dit, « Oui, mais c'est qui ?» Ben, Jacob a dit à son père, « Mais je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, tu sais. Eh ben, écoute, tu peux te lever, assieds-toi, et puis mange du gibier que je t'ai ramené. Et puis, comme ça, tu vas te réjouir. » Mais Isaac dit à son fils, « Quoi ? Mais comment ça se fait que tu en as déjà rapporté du gibier, mon petit ?» Et Jacob a dit, « Mais tu sais, c'est que c'est Dieu qui a amené le gibier vers moi. » Isaac a dit à Jacob, « Approche voir que je te touche. Je veux vraiment savoir si c'est mon fils Ésaü ou pas. » Et Jacob s'est approché d'Isaac, son père. Son père l'a touché, il a dit, mais ça c'est drôle, c'est bien la voix de Jacob. Mais alors les mains, c'est les mains d'Ésaü. Forcément, ils étaient déguisés. Et il n'a pas reconnu parce que ses mains étaient poilues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il l'a béni. Et lui dit, c'est bien toi, mon fils Ésaü? Et Jacob a dit, c'est moi. Isaac a dit, écoute, serre-moi, je vais manger du gibier de mon fils, et puis je vais me réjouir, Jacob l'a servi, il l'a mangé, il lui a apporté aussi du vin, il a bien bu. Et puis après Isaac, son père lui dit, approche maintenant, embrasse-moi mon petit. Jacob s'est approché, il l'a embrassé, et Isaac sentait l'odeur de ses vêtements, et puis il l'a béni. Il a dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Et à peine Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père, que voilà que Isaac, que Ésaü, son frère, revient de la chasse. Alors rapidement, il prépare un bon plat de viande, il le porte à son père, il dit à son père, « Hé papa, tu peux te lever, manger du gibier de ton fils, et tu te réjouir. » Mais Isaac, son père, il dit, « Mais qui c'est ?» Elle a dit, « Mais je suis ton fils aîné, Ésaü. » Alors Isaac a été saisi d'une grande, une violente émotion. Il a dit, « Mais alors, mais qui c'est qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté tout à l'heure alors ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni. » Comme ça, il sera béni. Alors, lorsque Ésaü a entendu ces paroles de son père, il a poussé des grands cris. Il était plein d'amertume. Il a dit, « Bénis-moi aussi, mon père. » Mais Isaac a dit, « Mais ton frère est venu avec ruse. Et il a dérobé ta bénédiction. » Ésaü a dit, « Ouais, est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé du nom d'un nom qui signifie trompeur, Jacob, qui m'a déjà trompé deux fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et maintenant il vient encore de m'enlever ma bénédiction ?» Et il dit, « Mais est-ce que tu n'as pas quand même en réserve une bénédiction pour moi ?» Mais Isaac a dit à Ésaü, « Mais tu sais, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé, de vin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils ?» Ésaü a dit à son père, « Mais est-ce que tu as que cette seule bénédiction ? Bénis-moi aussi !» Et Ésaü éleva la voix et il pleurait. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voilà, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, hein. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Ouais, eh ben quand le papa sera mort, eh ben moi je tuerai Jacob, mon frère. » Mais il l'a pas fait quand même. Peut-être parce qu'il n'a pas eu l'occasion assez tôt. Mais voyez, cette histoire est une histoire qui montre, hein, qui a, j'allais dire des lois spirituelles, le mot serait peut-être très fort, des principes spirituels intéressants. Voyez, Jacob a cru qu'il pouvait dérober une bénédiction, un bien spirituel par des moyens charnels, par des moyens humains. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça en profitant de ce que son père était aveugle dans ses vieux jours. Il a profité de ce que son père ne pouvait pas le reconnaître, donc il était dans une espèce de nuit, dans des ténèbres, et comme ça, il l'a trompé sur l'ordre de ses deux frères. Et il a cru qu'il avait, ce jour-là, touché le jackpot. Il a dit, là, j'ai tiré le gros lot, parce que la bénédiction, elle t'est donnée, elle est donnée maintenant, c'est la mienne. Mais ce que Jacob avait pas prévu, c'est comment les choses allaient se compliquer après ça. Parce qu'après ça, maintenant son frère le haïssait et ses jours étaient réellement en danger. Il pouvait, à la moindre altercation, un jour il pouvait se passer ce qui s'était passé entre Caïn et Abel. Donc il a été obligé de s'enfuir, hein, et il est parti pour 20 ans. Et quand il est arrivé chez son oncle, il s'est réfugié chez son oncle, c'était à des milliers de kilomètres, hein, et là, il a voulu se marier. Et son oncle lui a dit, « Oui, mais t'as pas un sou pour payer la dot. Tu crois que tu vas arriver comme ça, je vais te donner une fille comme ça pour tes beaux yeux ? » Ça marche pas comme ça. Alors tu vas travailler. Alors il a bien travaillé. Et puis quand il a eu travaillé 7 ans, le soir, on a organisé le grand mariage. Et il était content, vous savez, 7 ans de fiançailles, hein, ça vous, hein ? Ça crée une certaine pression quand même, hein? Hein? Alors le soir, eh bien, il s'est retiré avec la belle, mais il y avait une panne d'électricité. Et donc, ils ont passé la nuit ensemble, et le lendemain matin, quand le jour s'est levé, il a découvert qu'il n'avait pas dormi avec la fille qu'il croyait. Ça, si dans la vie on a des fois des surprises, là je pense qu'il en a fait une de taille, hein, hein. Ça c'est une surprise, ça, hein. Ça c'est une surprise. Quand il s'est le jour est levé, qu'il a poussé les volets et qu'il a découvert qu'il était maintenant marié avec quelqu'un qu'il n'avait pas choisi, on imagine comment il était furieux, n'est-ce pas? Il était furieux, il est sorti, alors là il est sorti de la, il a dû sortir de la maison en vitesse, hein. Il a couru vers son oncle, il l'a peut-être même attrapé par son truc, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et son oncle, moi j'ai l'impression que son oncle s'est un peu moqué de lui quand même. Il dit, non, non, chez nous on fait pas comme ça. Chez nous on fait pas comme ça. Et voyez ce qui s'est passé. C'est que son oncle a profité de la nuit pour le tromper sur l'ordre de ses deux filles. Vous avez vu? Comme lui, il a trompé son père en profitant de sa nuit d'aveugle pour le tromper sur l'ordre de ses deux fils, Laban a profité de la nuit pour le tromper sur l'ordre de ses deux filles. Vous voyez, il y a un moment où Dieu permet que la roue tourne et qu'on paye nos factures. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns, ils ne l'ont pas dit, mais ils l'ont pensé, ils ont dit « oui, mais maintenant on est sous la grâce ». Mais Dieu était déjà un Dieu de grâce à ce moment-là, hein ? Vous ne croyez pas ? Est-ce que Dieu est devenu un Dieu de grâce entre les dernières pages, la dernière page de Malachie et Matthieu 1 ? Non, Dieu est toujours un Dieu de grâce. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. L'évangile n'a pas inventé la grâce. Jésus n'a pas inventé la grâce. Il l'a mise en évidence d'une autre manière. Mais Dieu est un Dieu de grâce depuis toujours parce que c'est sa nature même. Et Dieu laisse quelquefois subsister dans nos vies des choses qui, dont pédagogiquement nous avons besoin. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous pardonne pas. Ça ne remet pas en cause le fait qu'on peut retrouver avec Dieu une vraie relation. Ça ne veut pas dire que Dieu nous garde comme si Dieu nous gardait de la rancune. Mais Dieu nous fait quelquefois payer les conséquences de nos actes afin que, parce que ça nous est nécessaire. Et c'est là que je dis qu'il faut que nous fassions attention à ne pas être légers avec, dans notre vie, légers avec nos comportements, légers avec nos façons de faire, parce qu'il y a des choses que nous ne rattraperons pas. Même le bon sens commun dit que le temps perdu, par exemple, ne se rattrape pas. Quelqu'un a perdu son temps, il a gaspillé son temps. Je cite toujours l'exemple, par exemple, d'un étudiant. C'était le temps, il avait du temps, il était à la fac. Il a eu plusieurs années pour faire passer des diplômes, etc. Mais il a trouvé plus amusant de vivre plutôt la nuit que le jour. Et puis voilà, il s'est bien amusé avec des copains. Tout d'un coup, eh bien, maintenant c'est fini. Le temps des études est fini. Et tout d'un coup, il faut qu'il trouve un petit boulot au SMIG. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête de me comporter de cette manière-là. Et maintenant, j'ai pas le moindre plus petit diplôme de rien du tout. Alors il peut demander pardon à Dieu d'avoir gaspillé son temps, c'est sûr. Mais Dieu ne fait pas revenir la machine en arrière. Maintenant, il vivra sans diplôme. Ouais. Est-ce que Dieu lui pardonne pas? Si. Mais il y a des conséquences qui restent. Ouais. On peut pas être. Il faut pas qu'on ait une vision naïve, une vision spirituelle, oui. Mais pas spiritualisé dans un sens éthéré qui finit par dissoudre les valeurs de la vie. Quand quelqu'un s'est ruiné la santé, bien sûr, Dieu peut guérir. Mais il y a des gens qui restent avec des problèmes parce qu'ils sont eux-mêmes ruinés la santé de mauvaise manière. Quand un homme a été suffisamment méchant avec sa femme pendant des années pour qu'un jour elle craque, elle demande le divorce, elle s'en va, elle se remet avec quelqu'un d'autre, elle se remarie, tout d'un coup, lui, il réalise qu'est-ce qu'il a fait, il a gaspillé sa vie, demande pardon à Dieu. Oui, Dieu te pardonne. Mais tu as quand même gaspillé ta vie. Voyez, pourquoi est-ce que... je reviens à Jacob. Pourquoi est-ce que Jacob a été trompé? Parce qu'on peut dire, mais lui aussi, il a été trompé. C'est quand même malheureux. Un vieil homme comme ça, dans son grand âge, il aurait dû être honoré. Hein, c'est vrai, c'est lamentable. Profiter d'un homme pour le tromper à cause d'un handicap, à cause de sa cécité. Moi, je dis, c'est c'est dégoûtant. Hein? Mais pourquoi il a été trompé? Pourquoi il a été trompé? Il a été trompé parce que lui-même, il a créé dans sa famille des conditions pour mettre le désordre, pour mettre la rancune dans sa famille. Parce que, à cause d'une préférence complètement charnelle, il a préféré celui de ses deux fils qui allait dans le sens de ce qu'il aimait. Parce que Ésaü était un chasseur, il ramenait du gibier. Et parce que Jacob aimait les bons plats de gibier, alors il a préféré Ésaü. Du coup, comme toutes les mamans qui se rendent compte qu'un de ses enfants n'est pas aimé du père, eh bien elle a reporté davantage d'affection sur l'autre. Elle a davantage aimé Jacob. Et maintenant, chacun des deux parents avait un chouchou. Donc forcément, les deux enfants, indépendamment de toute autre chose, sont déjà, par la situation même de leurs parents, ils sont en conflit tous les deux. C'est obligé. Donc ils se détestaient déjà avant tout ça. Et vous avez remarqué comment Jacob a été trompé? Ben, il a été trompé par son plat de viande. Il a été trompé par son plat de viande. Il a été trompé par ce qui faisait l'identité de sa faute. C'est à cause de son appétit charnel pour la viande qu'il a mis la zizanie dans toute sa famille et qu'il a préféré un fils à un autre. Et ben c'est par ce plat de viande que Dieu a permis qu'il soit trompé. Donc il payait la facture de sa propre faute en étant trompé. C'est pas seulement une victime. Ouais, ce pauvre vieux qui a été trompé. Attends. C'est qui a mis le bazar dans toute la famille? Là, il paye. C'est tout, il paye. Vous savez, Dieu a tout son temps. Ah, mais alors ça, Dieu a tout son temps. C'est pas parce qu'on paye pas tout de suite que la facture est passée à la trappe. Dieu a tout son temps. Vous savez, pour quelqu'un qui est éternel, Dieu a tout son temps. Même Rebecca, on peut dire Rebecca, c'est quand même elle l'instigatrice. Oui, mais Rebecca aussi a payé. Parce que comme elle avait de l'ambition pour son fils, elle voulait que son Jacob devienne hein, le seul, le grand, le meilleur, le number one. Elle a tout fait pour ça, à cause de sa préférence. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Ben, elle l'a plus jamais revu. Parce que Jacob est parti, il est parti pour 20 ans. Quand il est revenu, elle n'était plus là. Elle n'a plus revu. Donc vous voyez, ce qu'elle a mis en route s'est retourné aussi contre elle. Elle a payé le reste de sa vie, le regret de ne plus jamais voir son petit, de ne plus voir son chouchou. Pourquoi est-ce qu'Ésaü a été trompé? Il a l'air aussi là d'être une pauvre victime, mais il a été aussi trompé sur le terrain où lui-même il a fauté. Il a été trompé sur le terrain de la bénédiction parce que précédemment, dans un épisode antérieur, il a méprisé la bénédiction. C'est parce que une fois, vous rappelez de cette histoire, c'est l'histoire du coup des lentilles, hein? Rappelez le coup des lentilles. Il était parti à la chasse, il est revenu, il était très très fatigué, il n'avait rien attrapé. Et puis, quand il est arrivé, comme son frère, lui, il restait là, il avait préparé un bon plat de lentilles. Et quand il est arrivé, lui, il était affamé, il tirait une grande langue comme ça, il a senti ce plat de lentilles, il a dit, oh là là, il a dit à son frère, dis donc, tu me passes une assiette de ton potage, là, ça sent bon, hein? Ben, Jacob a dit, écoute, tout est négociable. Dans la vie, on peut toujours discuter. On peut discuter. Pourquoi pas, hein? Alors, on se parle comme ça, on fait un deal, et puis qu'est-ce que tu proposes? Jacob lui a dit, tu sais, un truc que moi j'aimerais bien, c'est qu'on négocie sur le droit d'aînesse. Et j'ai lui a dit, le droit d'aînesse? Bah oui, Jacob a dit, écoute, est-ce que tu y tiens tellement, toi? Ouf. Jésus a dit le droit d'aînesse, tout ça c'est des titres, hein? Ça sert pas à grand chose. Bon, il dit, écoute, on négocie sur ça, on s'entend, on convient du prix, puis après je te donne une assiette de lentilles. Ça marche? Bon, ben, il dit ok. Alors après ils ont fait une tractation. Souvent, j'ai l'impression que beaucoup de gens croient que Ésaü a cédé son plat de lentilles, son titre de son droit d'aînesse, simplement contre une assiette de lentilles. C'est pas tout à fait ça. Il a accepté de le négocier avec Jacob. Hein, il n'était pas demeuré quand même, hein. Il n'était pas bête. Mais ils ont négocié, ils ont tracté. Et puis, mais en faisant ça, en le commercialisant, il l'a méprisé. Et des années après, quand c'était le moment de la vraie transmission spirituelle, lui-même, il s'était disqualifié. Et c'est pour ça que Dieu a permis qu'il ait été trompé. Vous voyez, dans cette histoire, quelqu'un qui trompe est trompé. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, hein ? Quelqu'un qui trompe est trompé. Et chacun paye, chacun retrouve la conséquence de ses actes. Même Laban, qui a trompé Jacob en le truandant et en lui imposant de marier ses deux filles au lieu d'une, eh bien plus tard, Laban a été aussi trompé par Jacob. Et il a été trompé en particulier par ses filles aussi. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que le Nouveau Testament parle de cette façon-là ? Prenez, je prends juste un exemple. Prenez par exemple, j'aime bien l'exemple du fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, vous l'avez lu. Donc, le fils prodigue revient à la maison et il dit, quand il était encore en train de garder ses cochons, il dit, je vais revenir chez mon père. Hein. Là-bas au moins, il y a de quoi manger. Je vais lui demander une place, hein, je vais lui demander une place, et puis je serai payé comme un employé, je vais bosser et tout ça, mais au moins j'aurai un boulot, et au moins je pourrai manger et être traité un peu dignement, quoi. Bon, quand il est arrivé à la maison, son père l'a reçu vraiment avec un amour, qui nous laisse, c'est vrai, ça nous laisse pantois quand même, hein. Imaginez que qu'un de vos fils vous ait fait un coup tordu comme ça, d'accord, on pardonnait, mais de là à courir à sa rencontre, lui sauter au cou, c'est fort quand même, hein. C'est pas mal, surtout qu'il sentait mauvais, hein. Alors, son père, ok. Mais après, le fils, le frère aîné, il revient des champs. Quand il a compris que c'est son petit frère qui est en train de revenir, alors là, il était fâché, là. Il disait, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bazar? Alors l'autre, il a pris la moitié des terrains, la moitié des champs, la moitié de l'argent, il est parti, il a tout dépensé, il revient comme un loqueteux maintenant, et puis il rentre dans la maison comme ça, ni vu ni connu. Mais ça se passe pas comme ça. Et il voulait pas. Alors son père est allé le voir. Il lui dit, écoute, mais enfin quand même, il faut que tu comprennes. Ça te fait rien au cœur, toi. Il était mort. Tout d'un coup, on le retrouve vivant. On savait pas ce qu'il était venu. Mais moi, j'ai retrouvé mon fils. C'est magnifique. C'est formidable. Et le père lui dit, tu sais, tout ce qu'il y a dans la maison là maintenant, c'est à toi. Pourquoi est-ce que le père lui a dit ça? Non? Vous trouvez pas bizarre? Pourquoi le père lui a rappelé que tous les biens qui étaient là étaient à lui? Parce que le frère aîné avait maintenant peur qu'on repartage. Mais, non, mais le papa, il a bien compris. Le papa, il a bien compris ce qui était en train de se passer. Parce que l'autre, le frère aîné, bon, il dit, bon, il a pris la moitié, il a tout dilapidé, il a gaspillé, ok, maintenant il revient, comme je connais mon père, il est là, il est gentil, il pardonne, c'est un bon papa, plein de grâce, tu vas voir, dans quelques temps, on va repartager un nouveau coup. Mais le père lui dit, non, mais si c'est ça qui t'ennuie, il n'en est pas question. Tout ce qui est ici est à toi. Tout ce qui est ici est à toi. Il lui a dit clairement, ton frère ne possède plus rien dans la maison. Ton frère ne possède plus rien dans la maison. Il revient, on fait une grande fête. Mais après la fête, demain, s'il veut manger, il faut qu'il bosse. Demain, il faut qu'il trouve un petit boulot. Il faudra qu'il aille dans les champs. Et son patron, ça sera son frère. Vous me suivez? Quelquefois, on croit que parce que le fils prodigue est revenu, il est revenu dans la situation antérieure à son départ. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Il est revenu maintenant au niveau de sa relation avec son père, voyez, ce qui est clair, c'est qu'au niveau de sa relation avec son père, tout est rétabli, pas de problème. Il est le fiston à papa, comme avant, pas de problème. Mais ce qu'il a gaspillé est gaspillé. On ne reviendra pas dessus. C'est fini. Il avait un temps pour engranger. Il en a fait un temps pour gaspiller. C'est gaspillé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas l'aider. Ça ne veut pas dire que si maintenant il n'est pas stable, ça veut dire que si maintenant il se donne de la peine, s'il sait gérer, s'il demande à Dieu, avec le tout petit peu avec lequel il redémarre maintenant, Dieu va peut-être l'aider à redémarrer puis à faire autre chose. C'est clair. Mais en tout cas, ce qui a été perdu est perdu. Vous voyez, comme Jacob a dû affronter les conséquences de ce qu'il faisait, Rebecca aussi, Ésaü aussi, et Laban aussi, et Isaac aussi, et le fils prodigue aussi, et nous aussi, nous affrontons les conséquences de ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire que Dieu nous pardonne pas. Ça ne veut pas dire que Dieu nous aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu manquerait de compassion. Dieu est un Dieu de grâce. Mais il nous a donné aussi une tête et une capacité pour faire attention à comment nous gérons ce qu'il nous a donné. Le Nouveau Testament parle souvent de gestion. Souvent, Jésus a pris des exemples, dans des paraboles, des exemples à propos de gestionnaires. Souvent, dans nos traductions courantes, on parle d'un économe. Bon, c'est dommage qu'on emploie ce mot-là comme ça, parce que pour nous, aujourd'hui, un économe, c'est juste le truc pour peler les patates. Mais disons, un comptable, un gestionnaire. Ok. Mais Jésus prend souvent modèle sur ça. Il dit, attention, il y a des gens qui savent gérer, pas gérer. On a chacun plusieurs capitaux à gérer. Notre santé, notre corps, notre vie, notre temps, nos talents, nos capacités, toutes ces choses-là, c'est notre patrimoine personnel. Et ce que nous perdons, eh bien, nous le perdons. Alors, parce que Dieu est un Dieu de grâce quelquefois, il va quelquefois faire des miracles qui vont effectivement faire revenir les choses complètement à l'envers, jusqu'à même recréer les situations d'avant. C'est possible, Dieu le fait, mais Dieu n'est pas obligé de le faire. Dieu le fera quand il sait que, d'une manière, de façon à nous aider, quand il sait que c'est nécessaire. Mais il y a des fois, il dira, comme dans Jérémie, où il dit quelquefois, je suis obligé de te corriger. Je ne peux pas te laisser impuni. Et Dieu le dit comme avec un regret. C'est comme quand Nathan vient trouver David, parce que David se repent. Nathan lui dit, de la part de Dieu, Dieu te pardonne. Ah, ouf. Et voilà les conséquences de ce qui va se passer pour toi maintenant. C'est pas que Dieu lui a pardonné en moitié. Dieu lui a pardonné en entier. Et Dieu lui dit, maintenant, voilà, je vais t'expliquer comment tu vas payer la facture. Et David a payé. Et on peut dire quasiment qu'à partir de ce moment-là, la fin de sa vie, globalement, est une fin difficile. Une fin difficile. Des problèmes étourdissants de gravité, qui s'accumulent, qui s'entrelacent, qui se reprennent, qui rentrent les uns dans les autres. Quelquefois, il était devant des problèmes insolubles. Mais la grâce de Dieu ne lui a jamais manqué. Dans ses problèmes, David a continué de voir que Dieu l'aimait. Dans ses problèmes, David a continué de voir que Dieu le soutenait. Dans ses problèmes, il a été chaque jour persuadé davantage que Dieu lui avait réellement pardonné au milieu de ses problèmes qu'il aurait pu éviter. Je ne voudrais pas faire peur à personne, mais je voudrais juste, et je me le dis à moi-même, je dis juste que nous devons être attentifs à ne pas nous être fabriqué un évangile qui serait une négation de la réalité, une négation du réel. La réalité est une sous-partie de la vérité. La réalité fait partie de la vérité. Et Dieu ne nous laissera pas passer des choses qui sont nécessaires pour notre salut, pour notre soutien, pour notre bien. On peut perdre du temps, On peut perdre de l'argent, on peut perdre de la santé, on peut perdre des relations, on peut perdre de l'amitié, on peut perdre son couple, hein, sans pouvoir le retrouver. Après, on peut pleurer, on peut chercher Dieu, et on voit la grâce de Dieu, mais Dieu n'est pas tenu de transformer et de faire marcher la machine à remonter le temps. Ça, c'est la science-fiction. La machine a remonté le temps, mais le temps ne revient pas en arrière. Il nous faut prendre au sérieux ce que nous vivons. Nous vivons une fois. Eh oui. Eh oui. On est engagé. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu électronique où de temps en temps il y a une loterie puis vous touchez une vie. Ah, combien t'as de vies? J'ai 3 vies. Ben non. Ben non. On n'a qu'une vie. Et merci Seigneur, hein. C'est déjà assez difficile à gérer. Moi je dis, hein. Moi, pour moi, je vous dirais, honnêtement, ça me paraît largement suffisant. Hein. Mais, Dieu sait. Mais, frères et sœurs, demandons à Dieu qu'il nous donne de la sagesse. Vous voyez, nous sommes dans une époque, j'en ai parlé hier avec les étudiants, là, mais on est dans une époque qui est une époque postmoderne, où les valeurs fondamentales de notre époque sont des valeurs de divertissement, comme disait Pascal, Blaise Pascal. Ce sont des valeurs de divertissement. C'est les valeurs numéro un, le loisir. On pourrait dire autrement dit, c'est l'étourdissement. Or, il faut qu'on fasse attention à ça. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas faite pour se faire plaisir, même si Dieu aime que nous soyons dans la joie, mais la joie et le plaisir, c'est un tout petit peu différent quand même. Et il faut que nous soyons attentifs à ça. Qu'est-ce que nous faisons de tout ce que Dieu nous a donné à gérer? Un jour, nous arrivons tous devant le Seigneur et nous allons présenter nos comptes, nous allons présenter nos cahiers. C'est ce que le Seigneur a dit. Hein, Paul dit, on va arriver et on va passer devant une espèce de tribunal où tout ce qu'on a fait, tous les actes passent à travers d'un espèce de feu qui est un révélateur. Hein. Et les choses combustibles, eh bien, sont consumées et ne traversent que les choses qui ont une valeur spirituelle, une vraie valeur, une valeur d'éternité, une valeur de Dieu, une valeur, hein, c'est l'or, les perles, les pierres précieuses. Mais le bois, le foin, le chaume, etc., tout ça est consumé. Je voudrais, juste pour terminer ce soir, je voudrais peut-être nous inviter à nous demander chacun quel bilan nous pourrions faire de ce que Dieu nous a confié. Qu'est-ce que c'est devenu entre nos mains? Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on n'a pas des fois traité avec un petit peu de légèreté cette idée que Dieu est juste? Vous voyez, par exemple, il y a une phrase, hein, je ne l'ai pas lue tout à l'heure, mais il y a une phrase, je crois que c'est au verset 13, par là, au début du chapitre, quand Jacob se faisait du souci, il a dit à sa maman, il a dit à Rebecca, il a dit « Oui, mais si mon père s'en aperçoit, au lieu que la bénédiction vienne sur moi, c'est la malédiction qui va venir sur moi. » Et Rebecca, avec beaucoup de légèreté, a dit « Que cette malédiction vienne sur moi. » Mais elle est venue. Elle est venue. Elle est morte bien avant son temps. Elle est morte toute seule. Elle a gaspillé le reste de son âge. Elle a dit avec légèreté « Que la malédiction vienne sur moi. » Comme les responsables religieux qui ont condamné Jésus, quand il a été question du sang, du juste, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eh bien oui, c'est ce qui est arrivé. Vous voyez, une grande légèreté spirituelle, une espèce d'oubli, une espèce d'amnésie, que Dieu est celui qui juge, que Dieu est celui qui pèse. Comme quand cette main a écrit dans le livre de Daniel, quand il y avait le roi Belshazzar, qui traitait toutes les choses spirituelles avec mépris. Il a pris les coupes qu'on avait enlevées du temple de Dieu pour boire avec ses concubines dans une soirée indescriptible. Il sait, par là, il l'a fait exprès pour se moquer des choses de Dieu. Une main est venue et la main a écrit sur le mur. Une main toute seule. Vous savez, là, tout d'un coup, ça les a dégrisés. Hein. Là, tout d'un coup, ils se sont réveillés. Hein. Ça leur a fait plus fort qu'un café salé. Hein. Ah là, ils étaient mal tout d'un coup. Hein. Voilà qu'une main toute seule écrivait sur le mur. Peser, compter, diviser. Dieu lui a dit, je t'ai pesé. J'ai trouvé une plume. Dieu fait des bilans. Il nous pèse. Il nous compte. Job a dit que Dieu pèse le vent. Il faut avoir une bonne balance. Hein. Dieu pèse. Voyez, si ce soir, nous nous rendons compte que nous avons pu traiter avec un peu de légèreté les choses de Dieu, le regard de Dieu, la justice de Dieu, eh bien, je crois qu'il faut que nous demandions pardon au Seigneur. Et je crois que nous ne sortirons pas d'ici accablés, mais nous sortirons d'ici renouvelés dans cette force de nous rappeler que c'est la grâce de Dieu qui justement nous fait tenir debout. Mais que cette grâce ne doit pas être justement dilapidée et regardée comme quelque chose de faible valeur. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là, les uns et les autres. Si Dieu nous avait chacun, moi et n'importe qui d'entre nous, si Dieu nous avait traités selon nos fautes, où serions-nous ? Nous sommes chacun ici une démonstration de la grâce infinie de Dieu. C'est vrai. Chacun d'entre nous, notre seule présence vivante ici, notre seule capacité de lever la main pour louer Dieu est une preuve, une démonstration quasi scientifique que Dieu est un Dieu de grâce. Alors justement, qu'est-ce qu'on va faire de cette grâce? Est-ce qu'on va la traiter avec légèreté ou est-ce qu'on va la considérer comme un bien précieux? Peut-être si quelqu'un se dit ce soir, hein, bon, j'étais un peu léger avec tout ça, après tout, bien, dans ton cœur, tu demandes au Seigneur, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et le sang de Jésus est capable encore et toujours de nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est extraordinaire. C'est la puissance. C'est la puissance du Père qui accueille le Fils prodigue. C'est extraordinaire. Apprenons à bien compter nos jours. Apprenons à compter les mines et les talents que le Maître, avant son départ, a mis dans nos mains. Parce qu'il va aussi les compter à son retour. À son retour, il va aussi les compter. Prions, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ta parole. Merci Seigneur pour cette parole qui est tellement profonde. Merci pour ta parole qui est tellement perspicace, qui est comme cette épée affûtée qui tranche, qui sépare, qui révèle, qui met en lumière. Seigneur, merci pour le ministère de ton Saint-Esprit qui peut parler à nos cœurs, qui peut nous instruire, nous reprendre. Nous savons que tu le fais toujours avec mu par ton amour pour nous. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour le pardon de tous nos péchés, grâce au sang de Jésus. Seigneur, te remercie de nous donner, Seigneur, cette capacité de vivre dans ta présence et de vivre ici sur cette terre, de manière à donner gloire à ton nom. De manière, Seigneur, à justifier cette grâce que tu as investie en nous. Seigneur, ne nous laisse pas gaspiller notre temps, nos capacités, nos talents, nos aptitudes, les circonstances, les opportunités que tu nous as données. Donne-nous, Seigneur, d'être des disciples attentifs et des enfants qui t'aiment. Je voudrais te prier spécialement encore ce soir, Seigneur, pour quelques-uns ce soir qui, déjà avant cette réunion, ont peuvent se trouver spécialement culpabilisés. Et le Seigneur vous rappelle que quand quelqu'un est culpabilisé, c'est peut-être qu'il est coupable. Et que s'il est coupable, alors il faut se repentir, revenir au Seigneur de tout son cœur, lui confesser sa faute et décider de l'abandonner et croire au pardon de Dieu. Et puis d'autres sont culpabilisés parce qu'ils sont sous une puissance qui les culpabilise. Et ceux-là doivent lutter avec foi pour croire au pardon et chasser la culpabilité. Et pour cela, maintenant, au nom de Jésus, avec vous, nous sommes unis pour lier maintenant toute puissance de culpabilité. Cette puissance qui veut vous démolir, hein, qui vous brise intérieurement. Que cette puissance maintenant vous quitte au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous donner, Seigneur, de la joie dans ton service. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.